va prier, on mange le caillou. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es présent et nous savons que tu sièges au milieu de nos louanges. Et nous voulons te louer, te célébrer, te bénir pour ta présence. Et nous refusons toute action de l'ennemi en nous, autour de nous, et nous réclamons le silence autour de nous et aussi en nous, pour que par ta parole, par ton Esprit Saint, tu parles encore à nos cœurs et tu disposes de ce moment que nous avons voulu bien mettre à part parce que c'est toi qui nous as convoqués. Glorifie ton nom et loué sois-tu par Jésus-Christ. Par ton... Amen. Merci de vous asseoir. Vous savez, quand il y a une contrariété dans quelque part, il faut... redoutable. Et donc, si on prend le temps de lui donner un coup d'épée, il faut donner une seule fois. Il ne faut pas lui donner deux fois parce qu'il peut se débattre. Mais nous sommes victorieux en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous savez, quand nos parents nous corrigeaient, ils nous donnaient pour que nous n'ayons pas à redemander. Hein? Et tant que papa n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut avec maman. Vrai ou pas? Mais quand papa arrive, on entend la voix de papa, on dit, oh, papa est là, papa a parlé. Vous savez? Nous avons tous été enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qu'on fait? On fait silence ou on obéit, n'est-ce pas? Et parce que quand Dieu dit la chose, mais nous avons toujours des tiraillements à gauche et à droite et on dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu est pourtant celui qui, dès le départ, au commencement, dit la Bible, quand vous prenez votre Bible, hein, si vous y croyez, et certains disent non, on ne croit pas, c'est le Big Bang. Au commencement, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, et la chose est arrivée. N'est-ce pas? Et Dieu continue de parler ou bien sais-tu? Quand Dieu se tait, mes enfants, c'est terrible, hein? Il y a des on nous demande de faire une minute de silence. Vous avez essayé de faire déjà une minute de silence? Il y a toujours quelqu'un qui tousse. Dieu nous demande de faire silence quand il parle. Parce qu'il continue de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Hébreux 1, verset 1, dans la version de la colombe, pardon. Après avoir autrefois ou jadis, à plusieurs reprises, de plusieurs manières ou de manières différentes, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé. Continuez. Par le Fils. Est-ce qu'il est écrit là? D'accord. Alors je recommence. Après avoir autrefois de plusieurs manières, de plusieurs différentes manières, Dieu a parlé par son Fils. Il n'a pas parlé par Mahomet, ni par Bouddha, ni par la Vierge Marie. D'accord, Dieu a parlé. Alors qu'on ne me dise pas aujourd'hui, Dieu parle de plusieurs manières et qu'il peut parler à d'autres et qu'il peut se révéler à d'autres. Il s'est révélé une fois pour toutes en Jésus-Christ. Allô? Parce que je veux bien avoir des cousins, mais des cousins qui croient en Jésus-Christ. Allô? D'accord. Vous savez, Dieu a voulu, je continue le texte jusqu'au verset 4, parce que ce Fils, il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Qui peut faire ça sinon Jésus-Christ? parce qu'il est lui-même Dieu. Ce Dieu qui a créé toutes choses s'est révélé dans la création. On dit, oui, mais celui qui a fait ça, il est grand. On ne l'appelle pas Dieu, mais il est grand. Ce qu'on appelle la révélation générale. Et puis 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et c'est ce sont par les écritures, c'est par les écritures que Dieu aussi s'est révélé. Parce que c'est à travers la parole que nous avons la foi et la foi nous révèle Jésus-Christ. Et puis Dieu a parlé par les prophètes autrefois dans sous l'ancienne alliance et les hommes n'ont pas écouté quand même. Je ne sais pas si vous avez observé, il y a c'est surtout les femmes, hein. Elles sont très observatrices. Patricia n'avait pas son alliance depuis Belle Lurette. Et puis il y a 2 semaines, on a décidé de réparer, de recoller, de ressouder une alliance. Ça, c'est soudé une fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais comme elle avait été opérée, le doigt avait enflé, alors j'avais le choix entre couper le doigt et couper l'alliance. J'ai préféré couper l'alliance. Et puis bon, pas d'argent. Donc finalement, on s'est dit, c'est pas bien. Les gens vont parler. On a décidé de ressouder. Elle n'est pas là. D'accord, c'est pour ça que je parle comme ça. Alors. Mais Dieu a fait plusieurs alliances. Et pour finalement faire une alliance éternelle avec les hommes que nous sommes. En Jésus-Christ. D'accord? Vous allez voir le but d'une alliance. Et le pourquoi Dieu nous a choisis. Parce qu'il a choisi, il fait une première alliance en Adam. Tout début, Adam a échoué. D'accord? Et il a fait une alliance en Noé après. Vous vous souvenez? L'arc-en-ciel. Plus de déluge sur terre pour éliminer la race humaine. Et pourtant, regardez, partout dans le monde aujourd'hui, c'est des inondations. Mais, Dieu a dit, plus de déluge. Il y aura le déluge, mais ça ne va pas dépasser les sommets. Dieu a fait alliance avec Abraham. J'ai compté dans la Bible, il y a au moins 8 alliances, 8 ou 9. Abraham, Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15, Genèse 17, Dieu a multiplié, tu seras père d'une grande nation. Et puis, Dieu a fait alliance avec Moïse. Moïse a voulu connaître son identité. Il a dit, ok, d'accord, je lève le voile, je suis le grand je suis, l'éternel des armées. Et plus tard, nous lisons, et je vais lire avec vous, Exode chapitre 4, verset 22, que Dieu a un fils qui s'appelle Israël, premier-né. Vous saviez ça? Dieu a fait alliance, Exode chapitre 2. Vous me regardez comme si c'était la première fois que vous entendez des choses. Exode chapitre 4, pardon, verset 22. Exode 4, verset 22. Quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, il dit au verset 22, « Tu diras au Pharaon de ma part, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Vous le saviez? Non. C'est un oui, ouais. Et verset 23. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai pour périr ton fils, ton premier-né. Israël est devenu le premier-né. Parce que Dieu a fait alliance avec Israël, tu seras père d'une grande nation. Et puis, Israël, je dirais, a été le récipiendaire, le réceptacle, dépositaire, comme vous voulez, des lois, des alliances, du culte et même du temple. Israël avait beaucoup d'avantages que les autres nations autour n'avaient pas. À Terre ancienne, ceux qui entraient dans le temple, dans certains lieux, c'était à leur risque et péril. Parce que c'était réservé aux Juifs, à Israël. Et aujourd'hui, on peut condamner Israël dans la région de Gaza, mais Israël reste encore, malgré sa désobéissance, reste encore le peuple de Dieu. Allô? Et nous pouvons louer le Seigneur pour Israël parce que nous avons été greffés sur Israël. Quand on fait, pour les agriculteurs, quand on fait une greffe, il y a le sauvageon et puis il y a la greffe qui vient se planter dessus. On attache jusqu'à ce que ça vit de la sève d'en bas. Et Dieu a fait que Israël a occupé et occupe encore une position unique. Et depuis sa sortie d'Égypte, Israël a été protégé par ce grand Dieu. Avec la gloire, la Shekinah, cette nuée qui précédait ou qui suivait et qui faisait en sorte que personne ne pouvait attaquer Israël. Peuple béni, certes, mais ma question est à quoi pouvaient servir toutes ces bénédictions si elles ne conduisent pas au salut? Parce que le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Donc Israël avait un privilège, comme beaucoup qui se disent chrétiens aujourd'hui ont des privilèges, ils sont bénis, ils sont sanctifiés par ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais qui... Or, depuis la création, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est de nous faire entrer dans sa gloire. Quand l'homme pêche, Dieu dit, empêchons-le d'entrer et de vivre éternellement. Donc Dieu met des gardiens là pour empêcher à ce que l'homme ne biaise encore, comme on dit, pour essayer de se faufiler pour entrer. C'est réservé. Et vous savez, quand les portes vitrées automatiques sont arrivées, beaucoup se sont priés dedans, non? Parce qu'on arrivait et puis où les portes étaient fermées, où il fallait attendre que ça s'ouvre. Et j'en ai connu un qui ont prié, boum! Quand Dieu ferme, Dieu ferme. Personne ne peut ouvrir. Mais quand Dieu ouvre par Jésus-Christ, il ouvre. Et c'est éternel. Et tous ceux qui veulent entrer, c'est la possibilité et c'est le seul chemin. Dieu a mis en place un plan de salut pour l'humanité. Autrefois, c'était l'obéissance que Dieu réclamait d'Israël. Il y avait des sacrifices de réparation. Et il fallait le faire. Mais ça ne procurait pas le salut. Et au chapitre 11 de notre texte du jour, Dieu dit qu'il a parlé par le Fils. Ce Fils, verset 3, est de même essence, de même substance, je dirais, même esprit que le Père. Il est le reflet, le rayonnement de la gloire et l'expression de son être. Patricia a cité ce texte sans savoir pourquoi, de quoi je prêchais. Jean 1, l'apologue, il dit Jésus-Christ est venu en chair et c'est par lui que nous avons contemplé le Père. Dieu fait en sorte que l'homme ne reste pas dans les ténèbres, ne reste pas dans le noir. Et c'est ce qu'on appelle en Jésus-Christ la révélation particulière. Parce que Dieu avait dit à David, le roi David, il ne te manquera jamais de successeur sur ton trône. Or, Jésus est issu de David, de la tribu de Juda. Donc, Dieu tient à sa parole. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et Dieu a fait en sorte que malgré la rébellion, malgré la désobéissance de l'homme, tout au long des siècles, quand bien même qu'il y a eu une période de 400 ans, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, pour dire, voilà, c'est par lui. Et quiconque mettra la main à ce convoi, parce que Jésus c'est le dernier convoi. C'est pas celui qu'on voit, hein, le dernier convoi. Souvenez-vous de Bartimée assis sur la route de Jéricho. Il entend passer le fils de David. Fils de David, crie-t-il, il dit c'est le dernier convoi. Et on essaie de le faire taire. Il dit non, il crie plus fort. Et Jésus doit s'arrêter. Parce que c'est le dernier qu'on voit. Si vous ne prenez pas le dernier train, vous allez dormir sur le quai. Hein? On dit, non, celui-là, il est trop bondé, j'attends le prochain, il n'y a pas d'autre. Je suis arrivé, puis le gars, il ferme le grillage devant moi. J'ai dit, mais je fais quoi là? Il m'a dit, mais prenez un bus.
débrouillez-vous.
Quand c'est fermé, c'est fermé. Et on pense toujours qu'on aura une deuxième chance. La Bible dit que la porte de la grâce un jour sera fermée. Comme pour Noé, du temps de Noé. Et donc, ce que Dieu dit, il n'est pas homme pour mentir. Il n'a pas changé de stratégie, il garde son cap pour l'humanité. C'est la gloire. Et il veut partager sa gloire avec nous. Et l'alliance, en réalité, c'est un accord entre deux parties. Dans le mariage, c'est un homme, une femme. Je ne vais pas extrapoler. Hein? Mais il faut qu'on, c'est celui ou celle qu'on a choisi. Et les deux parties se mettent d'accord pour le respect, pour l'obéissance, pour jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Certains ont oublié déjà. Hein? Mais avec Dieu, c'est Dieu qui fait le choix, parce qu'il y a toujours la notion de choix. Dieu fait le choix de nous choisir, de nous mettre de côté. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? C'est ça l'Église, un mystère. C'est ça le mystère de Dieu, l'Église. Plusieurs nations de différentes ethnies, mais nous sommes là. Et nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu est là, il nous a mis de côté et Dieu exige de nous l'obéissance. Je ne peux pas exiger de ma femme l'obéissance, elle ne peut pas exiger de moi l'obéissance, puisque nous sommes humains. Mais Dieu exige de chacun de nous qui sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, l'obéissance. Ce sont ses critères. Et celui qui passe outre, eh bien, c'est assez risque et péril. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus comme d'un Messie à venir. N'est-ce pas? Si vous êtes directeur avisé, vous le savez. Il est question en Ésaïe du serviteur souffrant, Ésaïe 53. Et la Bible dit qu'il y aura des attributs divins. Et l'évangéliste Jean, quelques siècles après, 8 siècles après, nous apprend qu'il était avant toute chose. Et toutes choses ont été créées par lui. Jésus-Christ, Dieu, c'est la même personne. Bon, ça c'est un autre débat théologique. Que si vous allez dire ça des témoins de Jéhovah, ils ne vont pas vous croire. Mais ils étaient en parfaite harmonie et le Père en chair est venu parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Philippiens chapitre 2 nous dit que Jésus-Christ s'est littéralement vidé de sa gloire pour venir habiter parmi nous. Mais ce fils n'a pas fait l'unanimité, vous le savez. On va bientôt peut-être célébrer sa naissance, mais Jésus est déjà mort. Il n'a pas fait l'unanimité. Il est venu et il a mis à mal les autorités juives avec de nouvelles lois. Il a dit, vous avez appris ceci, mais moi je vous dis cela. J'étais avant Abraham. Oh punaise, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Et aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'a pas été accepté. Il a été refusé, c'est ce que nous dit le prologue de Jean. Et plus tard, ils l'ont crucifié. Mais ils ne mettront plus la main sur lui quand il reviendra dans sa gloire. C'est lui qui se fera supplier. Mais là encore, il sera trop tard. Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux toujours, n'a pas changé. Il veut racheter l'humanité et c'est son alliance éternelle, je répète, depuis la jeunesse des temps. Quand Jésus vient vers Jean-Baptiste, il se fait entendre une voix dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu a parlé. Dieu avait arrêté de parler. Dieu a parlé. Et nous devons l'écouter. Quand Jésus se retrouve sur la montagne de la Transfiguration avec Élie d'un côté, Moïse de l'autre, et que Pierre, dans son enchantement, dans son zèle, veut construire, veut monter des tentes, et c'est super, qu'est-ce qu'on est bien ici. Une voix se fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a pas d'autre alliance faite avec les hommes, ni Moïse, ni ça n'existe plus. Ça, c'était avant. C'est comme chez Afflelou. Ça, c'était avant. Maintenant, nous sommes en Christ. Et il faut savoir où je suis aujourd'hui, si je suis en Adam ou si je suis en Christ. Si je suis en Adam, je dois encore des sacrifices au Seigneur. Hein? Et bonjour les peaux de mouton ici, tous les dimanches matin. Mais je suis en Christ parce que tout a été fait, tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et il dit, Seigneur, je te remets mon esprit pour que l'ennemi n'ait pas à corrompre mes frères, mes sœurs. Dieu détient toutes choses. Pardon. Celui qui est qui cherche le salut par l'observation des lois, il sera face à une problématique un jour, tôt ou tard. Et je suis souvent confronté à des musulmans ou à des adventistes. Ils me disent, pourquoi les évangéliques n'ont pas compris qu'il faut faire le sabbat? J'écoute. Hein. Ils disent, si tu veux faire ton sabbat, fais ton sabbat. Peut-être qu'on va se retrouver là-haut, puisqu'on sert le même Dieu. Mais je ne peux pas admettre que musulmans me disent que c'est Allah et puis c'est point bas. Bon. Autrement, je n'aurais rien compris à l'évangile. Romains chapitre 3, verset 21. Ce n'est plus la circoncision, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Puisque Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, Romains chapitre 3, verset 21. Dieu nous fait comprendre que nous avons désormais une possibilité en Christ et en Christ seul. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Quand il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Et aujourd'hui, je dois faire très attention pour ne pas ajouter à côté de Jésus-Christ des Ellen G. White, des Joseph Smith, des je ne sais pas qui. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ. Le premier homme a échoué, la loi a échoué, et c'est à travers la rédemption, comme nous venons de le lire, le rachat, disons-le, par le sang versé de Jésus à la croix, que nous avons porte ouverte pour accéder à Dieu. N'est-ce pas? Jésus a accompli ce... Pourquoi il était venu? Offrir le salut aux hommes. Et nous avons cette révélation, il nous faut la foi. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend, via la parole de Dieu. Et nous devons l'accepter. C'est une conviction que le Saint-Esprit met en nous, convaincus de péché, de justice et de jugement. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et encore un autre débat, pourquoi le Saint-Esprit est Dieu? C'est théologique. Hein? Et nous ne sommes pas là pour débattre de ça ce matin. Mais c'est une grande confusion dans la tête de beaucoup. Et nous devons comprendre que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Tout a été focalisé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est en partie, le Saint-Esprit est venu. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie du Saint-Esprit. Il tourne le regard vers Jésus-Christ. Il est au centre. Il n'y a pas d'autre. Christ seul. Je disais que seul espoir, mais il n'y a pas d'autre espoir. Et cette foi qui nous tiraille d'un côté et de l'autre, pour qui, pourquoi, que quoi, etc., c'était la même chose du temps de Jésus. Ils étaient tiraillés. Mais nous sommes appelés en dehors de cette révélation, en dehors de la foi que l'Écriture nous procure, à être enraciné, à atteindre cette maturité en Christ. Parce que c'est en Christ que nous sommes, et pas en Adam. Vous savez, l'expression « en Christ » revient 164 fois, rien que sous la plume de Paul. D'où son importance. 164 fois. Rien que dans le Nouveau Testament sous la plume de Paul. Et Dieu, le Père, a voulu en Christ nous placer dans cette alliance avec son Fils et avec son Fils seul, parce qu'il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, qui est d'ailleurs appelé le cinquième évangile, vous avez tout relaté dans le chapitre 9. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Les anciens sont morts. Mais Christ est venu une fois pour toutes. Et en dehors de Christ, point de salut. Point de sacrifice encore. Nulle part dans la Bible, il est question d'une gloire rendue à Mahomet, ni à Bouddha, ni à la Vierge Marie. Et donc, fort de cela, je ne peux que me tourner, me résigner à rester attaché et accroché à Christ. Parce que c'est en Christ seul que je dois grandir. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, je ne veux rien savoir d'autre que Christ crucifié. Dites-le tout ce que vous voulez, fuyez les discussions, d'ailleurs il nous conseille, ça ne sert à rien. Parle-moi de Jésus-Christ crucifié, je t'écoute. Parce que la vraie question, ou les vraies questions, c'est pour qui il est mort et pourquoi il est mort. La loi n'est pas morte pour nous. Adam n'est pas mort pour nous. Marie, on ne sait rien. Elle n'est pas morte non plus pour nous. Même si l'Église romaine essaye de l'élever. Mais à chacun de nous de croire et de comprendre que Jésus-Christ est la seule porte des brebis. Et la Bible dit maintenant, nous sommes en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation. Nous ne sommes plus condamnés en Adam. Nous sommes dans une alliance éternelle désormais en Christ. Pas dans la religion évangélique. De sur quoi baptiste, ça c'est des titres. En Christ. Et désormais, la Bible parle de la gloire de la rédemption. Nous sommes rachetés. Et elle parle de la gloire des enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ est passé, de par son incarnation, à sa crucifixion, sa résurrection, de fils unique, fils premier-né, vous vous souvenez, Israël, Exode. C'est Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Israël n'est plus là. C'est Jésus-Christ, un fils premier-né d'un grand nombre de frères. Qui sont ses frères? C'est l'Église aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il dit aux femmes autour de la tombe? Va dire à mes frères que je les précède dans Galilée. Tous ceux qui font la volonté de Dieu aujourd'hui, en Christ, son fils, son frère et sœur de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 2, si vous tournez un peu la page, verset 11, il est dit que Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il sait qui nous sommes, il sait que nous ne sommes pas fidèles, il sait que nous sommes malheureux, il sait que nous sommes... Mais il nous appelle frères quand même. Vous n'avez jamais entendu ces chrétiens qui disent, « Ah, moi, je n'appelle pas tout le monde frère, hein. » Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas, je ne l'appelle pas frère, je ne l'appelle pas sœur. Mais Jésus n'a pas honte de nous appeler frère. Parce qu'il sait qui nous sommes. Pourquoi il nous a choisis? Est-ce que vous étiez meilleur que d'autres? Est-ce que j'ai été meilleur que d'autres? C'est ça le choix. Et dans un mariage, c'est ça. Il dit, pourquoi tu as choisi un tel? Pourquoi tu as choisi un tel? J'étais là. Mais tu as fait ton choix parce que tu l'as préféré. Ça peut paraître marrant, mais un choix, c'est parfois compliqué à faire, avec ses conséquences. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est lui qui nous a choisis. Est-ce qu'il a fait une erreur en nous choisissant? Pourquoi vous dites non? Vous ne savez pas? Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Vous avez raison, il n'a pas fait d'erreur. Mais c'est un privilège pour toi et pour moi, et nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers du Fils, et nous menons désormais une vie de victoire, plus de condamnation. Amen. Lisons 1 Corinthiens, verset chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, pour asseoir encore ce que Paul dit. 1 Corinthiens 1, 21, il dit, c'est car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons. C'est peut-être un scandale pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et vous pouvez continuer la lecture. Hein? C'est peut-être un scandale pour Dieu, pour les hommes, mais pas pour Dieu. C'est sa sagesse. Et la vie de victoire est rendue possible par notre soumission au Père et au Fils. Parce que le Fils a obéi en tout, sans péché. Et donc, nous sommes là ancrés dans une alliance éternelle. Le Père nous a parlé par le Fils. Si vous lisez Jean, chapitre 5 et 6, évangile de Jean, Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous ne croyez pourtant pas en moi. Vous avez le Père, vous avez Jean-Baptiste, vous avez les œuvres que j'ai faites. Vous n'avez pas cru en moi quand même. Que faut-il faire? On a beau prêcher l'évangile dans sa simplicité, les hommes écoutent et passe outre. On ne peut rien faire. C'est Dieu, par son Esprit Saint. N'est-ce pas? Combien de fois nous avons entendu l'évangile avant de craquer? Hein? Vous êtes venus au premier appel? Non. Donc nous sommes scellés par une alliance irrévocable. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous amener à une maturité, à une conviction profonde, pour que nous marchions sur ce chemin de la sainteté, de la sanctification jusqu'au retour glorieux du Fils. C'est lui l'objet de toute affection du Père. Amen. Et donc, faisons attention à ne pas nous laisser séduire, parce que c'est tellement facile. Nous avons un adversaire qui est redoutable et sans cesse, il essaye de nous faire croire que ce sont tes frères, ce sont tes cousins, c'est... Et même Dieu, parce qu'il connaît. Lisons le dernier passage et je vous laisse. Hébreux chapitre 13. Et si vous n'avez jamais lu Hébreux, étudiez Hébreux, lisez Hébreux. C'est magnifique parce qu'il ne parle que de Jésus-Christ, supérieur en tout. Hébreux 13, verset 20-21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis que nous sommes. Amen. Enfin, les brebis, hein, pas berger. Hein? Il a ramené d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Lisez, relisez cette bénédiction-là. Et dites, Seigneur, je veux me trouver dans cette alliance-là. Je ne veux pas passer à côté. Que ce Dieu, ce grand Dieu nous amène à cette alliance, quand parfois nous avons tendance à biaiser, pour que nous puissions rester fidèles au Seigneur Jésus, parce qu'il est fidèle au Père. Il a été, il l'est encore. Et il est assis aujourd'hui à la droite du Père et nous sommes assis en Christ. Amen. Que Dieu nous aide à grandir et à rester attachés au Seigneur.